La suite de notre série Le corps en image, ce matin l'imagerie par résonance magnétique. L'IRM, qui a permis de visualiser le cerveau comme jamais auparavant, est en grande partie à l'origine de l'essor de toutes les neurosciences, l'IRM. Aujourd'hui, on va parler plus précisément d'imagerie fonctionnelle entre révélation et supercherie. C'est le troisième volet de notre série.
Plus besoin d'attendre l'autopsie pour voir de près un cerveau. L'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, donne un accès direct. Les chercheurs mesurent les zones du cerveau qui s'activent quand une personne effectue une tâche alors qu'elle est dans l'appareil. Et c'est comme ça qu'on essaye de comprendre nos comportements, mais aussi les maladies. Cela a changé pas mal de choses, notamment dans les troubles psychiatriques. Nooshin Hadjikani est chercheur à Harvard et à l'EPFL, spécialisé dans l'autisme.
L'imagerie a pu démontrer qu'il y avait des différences entre les cerveaux des autistes et les cerveaux des personnes qui ne sont pas autistes, autant du point de vue structurel que du point de vue fonctionnel. Et elle a permis aussi de repérer que certaines de ces différences apparaissaient à un âge déjà très très tôt. Et je pense qu'elle a pu influencer la compréhension de la dynamique de l'autisme comme étant un trouble du développement du cerveau et non pas un trouble de la relation avec ses parents.
Vous voulez dire que grâce à l'imagerie, quelque part, on a pu s'éloigner ou en tout cas prendre plus de précautions par rapport à certaines théories psychiatriques ?
Oui, je pense que l'imagerie a pu aider à mieux comprendre que vraiment on était devant un trouble d'un cerveau qui se développe de manière anormale et non un trouble dû à une mère qui se comporte mal par rapport à son enfant. Ça ne veut pas du tout dire que les psychiatres ne doivent pas s'occuper de ces maladies, mais ça veut tout simplement dire que peut-être que la chaîne des événements n'est pas forcément celle à laquelle on croyait il y a encore quelques années et qu'il faut peut-être repenser les choses de manière un peu plus dynamique et différente.
Est-ce que vous pensez qu'on fait trop confiance en l'image, dans les informations qu'elle donne ?
Il faut bien sûr toujours regarder les images avec un œil critique, comprendre comment elles ont été générées, combien de personnes ont participé aux études, comment elles ont été analysées, quelles étaient les choses qu'on a comparées, etc. etc. Donc il ne faut pas simplement voir des jolies couleurs sur des jolies images. Mais en même temps, je crois que ça peut apporter des renseignements fondamentaux qui n'étaient pas accessibles il y a encore quelques années, où on n'avait que des lésions cérébrales, on n'avait que des autopsies pour comprendre ce qui s'était passé dans un cerveau.
C'est un développement fulgurant en termes de recherche.
Oui, oui. Alors le nombre d'articles a augmenté de manière exponentielle. Alors il y a des choses formidables qui ont été faites et puis en même temps il y a aussi évidemment beaucoup de déchets parce que tout le monde veut un peu essayer de faire des choses qui leur semblent rigolotes ou intéressantes, qui ne sont pas forcément fondamentales pour l'avancement de la science.
Il est vrai qu'aujourd'hui, on est surpris en lisant les revues de neurosciences.
Francesco Panese, professeur de sociologie des sciences à l'Université de Lausanne.
On a l'impression qu'avec l'imagerie, on peut prouver à peu près n'importe quoi. Du goût pour le rock contemporain chez les adolescents jusqu'à l'amour romantique ou au mécanisme de haine. C'est vrai que les neurosciences colonisent en gros la sphère du sujet et ça pose toute une série de questions parce qu'effectivement, on a l'impression que la dérive possible est à l'intérieur même de l'instrument. En gros, à partir du moment où on a des instruments qui permettent de mettre en évidence des tout petites différences de niveau d'activité cérébrale, on a l'impression qu'on peut bientôt prouver n'importe quoi. Il suffit simplement d'inventer un protocole qui va permettre à la machine d'identifier une différence d'activation. Il faudrait de temps en temps que les neuroscientifiques mettent un peu moins de lyrisme dans leurs titres, un peu moins de lyrisme dans leurs résumés, et qu'ils arrêtent finalement de nous faire croire qu'on perce les mystères cérébraux de tout et n'importe quoi.
Nooshin Hadjikani, professeur à l'EPFL, et Francesco Panese, sociologue et historien des sciences à l'Université de Lausanne, avec Virginie Mater. Demain, quatrième épisode du Corps en image, il sera question des doses d'irradiation.
Automatiquement donner l'alerte au reste du corps sans se préoccuper de savoir si le serpent représentait un réel danger. Il faut
Bonsoir, nous sommes tous de grands trouillards, moi y compris. Par exemple, j'ai très peur des chats, je sais, c'est absurde.
Dans le dos. La chair de poule. Si quoi que ce soit détalait maintenant, je pense que je fais une question.
L'instinct de survie de Vincent a donc très bien fonctionné. En voyant le serpent, son amygdale dans le cerveau a automatiquement donné l'alerte au reste du corps sans se préoccuper de savoir si le serpent représentait un réel danger. Il faut dire que notre amygdale réagit extrêmement rapidement à toutes sortes de stimulations extérieures, une sorte de radar capable de repérer le danger à vitesse grand V. Les neuroscientifiques ont même observé que l'amygdale réagit avant même que nous ayons conscience de ce danger.
Pour vérifier cette observation, nous avons sollicité la neuroscientifique Nushina Jikani et nous avons placé Luigi dans un IRM. Une fois allongé dans le scanner, on lui projette des images d'animaux pendant une fraction de seconde avant de les rendre illisibles en les masquant avec des formes abstraites. Impossible donc pour Luigi d'avoir pleinement conscience de ce qu'il voit. Mais pendant ce temps, la réaction de son cerveau est enregistrée.
Qu'est-ce qu'on a vu dans mon cerveau quand j'étais dans votre IRM ?
Alors avant que je vous dise ce que j'ai vu dans votre cerveau, j'aimerais que vous me disiez ce que vous avez vu sur l'écran.
J'ai vu une succession d'images qui étaient complètement floutées en fait, pixelisées. J'ai rien vu de concret.
Vous n'avez rien vu de concret, mais votre cerveau, lui, il a vu plein de choses. Et ça, j'ai pu le voir en faisant les analyses. Ce que je vous ai montré pendant cette expérience, c'était une série de photos de serpents et d'araignées. De manière subliminale. Donc, les photos étaient présentes pendant 30 millisecondes et juste après, vous aviez une version pixelisée, floutée de la photo. Donc, vous n'aviez pas la conscience de voir ces photos.
Effectivement.
Mais votre cerveau, lui, a eu le temps de les voir et d'y réagir, en fait.
Et du coup, vous, qu'est-ce que vous avez eu dans le cerveau, alors ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que les zones de votre cerveau qui sont importantes, en fait, pour la survie de l'espèce, se sont allumées. Alors, la plus importante de toutes, c'est l'amygdale. Donc, pendant que vous aviez l'impression de ne rien voir, en fait, votre amygdale, là, était activée et tout à fait alertée. On voit d'autres choses aussi, ce qui sont très intéressantes. On voit que votre cortex moteur et prémoteur, ainsi que des noyaux sous-corticaux qui sont importants pour le mouvement, sont allumés. Donc, vous vous êtes inconsciemment préparé à l'action. Vous avez vu ces stimuli, votre amygdale vous a alerté et vous vous êtes préparé à fuir.
Donc, si j'ai bien compris, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que consciemment, je n'ai pas vu ces images. Par contre, mon cerveau les a vues, mon système d'alarme s'est enclenché, mais qu'en plus, je me suis préparé à agir, c'est-à-dire soit à attaquer, soit à fuir.
Absolument.
Surtout à fuir, d'ailleurs, je pense.
Exactement.